Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
1er décembre 1944, Diaroy, l'histoire. Que s'est-il exactement passé le 1er décembre 1944 à Diaroy, non loin de Dakar? La France à l'époque est en guerre depuis de longues années, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, comme en 1914-1918, elle a fait recours à la Force Noire, le nom que un général, le général Mangin, avait donné aux soldats venus du continent africain, principalement du Sénégal et des autres colonies ouest-africaines. Tout se passe apparemment bien, apparemment, et puis brusquement, en 1944, ça bascule dans la tragédie, dans le drame, dans le massacre. Le 1er décembre 1944, plusieurs soldats rapatriés de France et basés à Diaroy sont fusillés. On se demande combien, pourquoi, est-ce une mutinerie réprimée selon les règles de l'armée ou s'agit-il d'un massacre pur et simple, un massacre colonial, un massacre de plus dans une série relativement longue. Donc c'est une histoire très controversée, sur laquelle il y a eu beaucoup de choses écrites. Des journalistes en ont parlé, des musiciens l'ont chanté, des poètes, le cinéma s'en est mêlé. Nous avons finalement un livre d'histoire, une thèse d'histoire qui aborde cette question avec les règles de l'art. La thèse est d'un historien, anthropologue, notre invité d'aujourd'hui, Martin Moore, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc fait cette thèse qui paraît aujourd'hui sous forme de livre, donc tout le monde va pouvoir s'informer de ce qui s'est passé. Le livre est publié par les presses universitaires de Rennes, livre qui je pense va être distribué assez massivement dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc vous avez travaillé comme un historien, à la fois sur les archives, la presse, mais aussi les souvenirs des survivants. Mais vous avez travaillé aussi comme un anthropologue, c'est pas exactement la même chose, et la combinaison des deux donne donc un travail très très pointu, le travail d'un historien qui évidemment n'est pas indifférent par rapport aux choses qu'il traite. Alors la thèse porte deux démarches, l'histoire et l'anthropologie, ou l'anthropologie historique. Commençons par l'histoire. Ces fameux tirailleurs sénégalais, ça date de loin dans l'histoire de la colonisation française.
Oui, alors effectivement, si moi mon travail a consisté un petit peu à essayer de faire une histoire de la mémoire et de considérer que les tirailleurs sénégalais, et en particulier ce drame, était extrêmement prégnant aujourd'hui en France, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Les tirailleurs sénégalais, c'est un corps militaire qui est institué à la fin du 19e siècle, en 1857. On compte à peu près 500 hommes qui sont créés. Donc c'est un décret de Napoléon III qui est signé à Plombières en juillet 1857. Et c'est un corps qui va progressivement s'étoffer. Au moment où la colonisation française commence à s'étendre et à conquérir l'intérieur du continent, on va se mettre à recruter de plus en plus d'hommes. Il y a quelque chose qui serait assez intéressant de faire une histoire en fait de ces anciennes armées dans ce 19e siècle qui est celui des djihads ouest-africains, de Samory, de Martal, et qui va recruter parmi ces hommes-là, qui va recruter beaucoup de populations qu'on appelle serviles. Et ce recrutement va être absolument massif et d'une ponction démographique très importante au moment de la Première Guerre mondiale. Donc juste après que d'ailleurs, comme vous l'avez signalé, le général Mangin ait théorisé en fait cette force noire, donc dans un ouvrage qui est considéré comme un ouvrage symbole du racisme militaire du début du XXe siècle.
On prête donc des vertus guerrières à certaines tribus africaines où on va recruter massivement. D'ailleurs, le premier député africain du Sénégal, Blaise Diagne, a contribué au premier recrutement lors de la Première Guerre mondiale.
Alors, Blaise Diagne est nommé commissaire aux colonies au début de l'année 1918, Donc après l'épisode du chemin des dames à l'automne 1917, où les tirailleurs se sont illustrés, il y a eu des pertes absolument dramatiques. Et Blaise-Diane est envoyé par Clémenceau pour recruter des hommes. Ça va être en quelques semaines plus de 60 000 hommes qui sont recrutés. Donc du point de vue de l'institution militaire, ces recrutements sont un succès, entre guillemets. Du point de vue des populations, c'est absolument dramatique, et un historien américain n'hésite pas à dire que en ratio pur, on a des chiffres qui sont au-delà des pires moments de la traite esclavagiste.
Bon, la France gagne la guerre avec d'autres de ses partenaires. On a souvent remarqué que entre les deux guerres, l'image du tirailleur sénégalais semble se réduire à celle du tirailleur qu'on voit dans une publicité Yabon Banania. Comment ils vivent, ces tirailleurs? Qu'est-ce qu'ils sont devenus après la guerre, pendant les 20 années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale?
Il y a une histoire, et puis moi c'est un peu ce que j'ai essayé de retracer, qui est assez fascinante, entre d'un côté des processus sociopolitiques et d'un autre côté un imaginaire, des représentations qui se développent. Donc au moment de l'occupation de la Sarre et de la Rhénanie en 1921 en Allemagne, ce sont des troupes coloniales qu'on envoie, et on a une campagne absolument raciste de la part des autorités allemandes, qui est d'ailleurs relayée par les États-Unis et d'autres pays, qui va prendre le nom de Schwarze Schande, la honte noire. Et en retour, on a cette image d'une image plus positive qui va se développer en France, où on accuse les Allemands d'être racistes. Et on est dans cette contradiction qui est fascinante à observer, où d'un côté, les tirailleurs qui étaient présentés comme des sauvages qu'il fallait civiliser, deviennent finalement des gens dont on doit montrer que cette mission civilisatrice a
donné des résultats.
Exactement.
Et alors, la guerre recommence, hein. Le premier 20e siècle a été un demi-siècle extrêmement violent et douloureux. Donc 1939, la drôle de guerre, 1940, la guerre. Déjà, on avait remarqué un certain nombre de choses. Le député qui succède à Blaise Diagne, Galandou Diouf, tenait des discours anti-nazis extrêmement forts. Et donc 1940, on refait encore appel à ces fameux tirailleurs.
Pendant ces 20 années, la conscription s'est peu à peu imposée, et on a de plus en plus de tirailleurs qui sont mobilisés. Donc on a presque 100 000 hommes qui sont envoyés, qui sont en France au moment de cette campagne de 1939-1940. Et qui vont combattre comme l'armée française pendant quelques semaines, qui vont subir une déroute comme le reste de l'armée, qui vont subir un traitement encore plus inhumain, si j'ose dire, de la part de l'armée allemande, justement.
En souvenir de l'occupation de la Rhénanie.
C'est ça. On pourrait même, il y a des débats actuellement dans l'historiographie allemande, si ces officiers de la Wehrmacht avaient une mémoire coloniale à la fois de cette Première Guerre mondiale et des troupes noires, mais aussi de ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, en Afrique australe au début du XXe siècle. Donc on a quelques épisodes extrêmement douloureux, le plus célèbre étant le massacre de Chasselet, où ces officiers allemands exécutent au mépris de toutes les conventions qui régissent la guerre des hommes, uniquement parce qu'ils sont noirs.
Et alors, bon, la guerre se déroule. J'imagine que ces tirailleurs font preuve du même courage que pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il se produit donc au cours de l'année 1944, ce rapatriement sur lequel on discute aussi beaucoup, parce que la guerre n'est pas finie. Il y aura encore au moins 5 mois de guerre. Pourquoi les rapatrier alors que la guerre n'est pas finie?
Ça reste. Alors c'est ce qu'on appelle le blanchiment. Hein, le terme est quand même assez révélateur. Ça se passe à l'automne 1944 et c'est quelque chose qui est encore discuté. D'un point de vue stratégique qui semble assez aberrant, même du point de vue militaire. Donc on choisit de faire sortir ces hommes qui sont des combattants. Donc ça, c'est pas les hommes qui étaient là en 1940, hein, c'est plutôt ceux qui vont arriver à partir de 1943 et à partir qui vont faire le débarquement de Provence notamment. Et l'option qui est retenue par le général de Gaulle, c'est de dire qu'il faut intégrer, donc dans un cadre où l'armée française est limitée par les Américains à 250 000 hommes, il faut un petit peu intégrer les forces françaises de l'intérieur, qui sont en majorité communistes, donc qui sont d'une option politique opposée à celle de Gaulle. Et dans ce cas où cette armée est limitée, ce qu'on choisit de faire sortir finalement, ce sont les tirailleurs. Alors que ces gens-là étaient parfaitement entraînés, aptes à combattre, et voilà.
Alors nous les retrouvons, on est obligé d'aller un peu vite sur l'embarquement et tout ce qui se passe au Maroc avant qu'ils arrivent à Tiaroy. Bon, le récit des événements, vous le faites avec beaucoup de pointillisme. Ça commence visiblement, non pas par une mutinerie, mais par des réclamations légitimes du solde qu'on leur doit. Et ça bascule rapidement dans le massacre. Vous parlez d'un massacre colonial.
Je parle d'un massacre colonial, ce qui est un terme qui est usité bon au Sénégal aujourd'hui. Hein, tout le monde parle du massacre de Tiaroy. C'est un terme qui me semble assez juste. Faut dire un petit mot quand même de cette atmosphère aussi à Dakar des années 40-44, où on a eu un gouvernement vichiste jusqu'à l'automne 42. Là, avec
où De Gaulle a essayé de débarquer sans succès.
Bon. Le général De Gaulle essaye à l'automne 40 de débarquer. Bon, il fait bombarder la ville de Dakar, ce qui a d'ailleurs laissé un souvenir assez prégnant dans les consciences là-bas. Et le personnel colonial, en fait, qui sont pas seulement les plus hauts responsables français, militaires et politiques, mais le personnel subalterne, mais qui a des fois des responsabilités, est profondément empreint de cette mentalité vichiste. Donc, fin 1944, on a ces hommes qui eux, là, les hommes qui vont mourir à Tiaroy, sont arrivés en France en 1940. Ils ont passé plus de 4 ans en tant que prisonniers de guerre. Donc, en France, parfois gardés même par leurs propres officiers, ce qui est encore une fois quelque chose d'assez surprenant. Et ils ont droit à le rappel de leur solde, c'est-à-dire leur salaire en tant que militaire pendant ces 4 années.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a tiré dessus parce qu'ils devenaient violents ou le climat de l'époque explique que les officiers aient décidé de punir en quelque sorte ceux qui osaient les braver?
C'est ça qui est assez... intéressant, si je puis dire, avec cet événement, c'est que finalement c'est un événement qui est relativement connu depuis 70 ans. On sait que ces gens-là, ces tirailleurs, avaient le droit à leur argent, et on sait que les Français ne les ont pas payés et ont ouvert le feu. Quand on rentre un peu plus dans le détail, donc ces tirailleurs, on va reparler un petit peu des chiffres parce que c'est des choses qui font débat. Ils arrivent en le 21 novembre 1944 à Dakar. Ils doivent être redispatchés dans leur colonie d'origine d'ici la fin du mois de novembre, et ils réclament légitimement leur solde. On a une source principale, hein, il faut dire ça aussi, on a une source principale qui sont celles de l'armée et qui donne l'impression de maquiller un petit peu les rapports. Donc nous, en tant qu'historiens, on a cette unique source et on doit essayer de lire à travers le grain, pour reprendre une expression. Le général responsable de la division Sénégal-Mauritanie, donc un des plus hauts responsables militaires français présents, considère que le 28 novembre, donc le lendemain où un premier contingent de tirailleurs devait partir à destination des colonies du Sud, considère que ces tirailleurs ne sont pas partis, lui se déplace au camp et considère qu'il est à ce moment-là retenu en otage. Donc ce sont ces termes, et ce qui justifie pour lui la mise en place d'une force de répression. On est après dans une espèce de flou, voilà, on ne sait pas cette prise d'otage, on ne sait pas à quoi elle correspond, hein, on a toujours des doutes là-dessus. On sait qu'il parle à son supérieur direct, donc le général de Boisboissel, qui est lui le commandant de toute la région AOF, le commandant militaire, qui parle aussi au gouverneur général Cournari, donc le gouverneur qui a remplacé le gouverneur Boisson.
Donc, lequel était vichiste, donc
le vichiste qui a quitté son poste, qui a été licencié à l'automne 42. Donc à la fois le pouvoir civil et à la fois le pouvoir militaire est informé de ce qui se passe au camp de Tiaroy, à une dizaine de kilomètres de Dakar, et mettre sur place cette force d'intervention qui ne peut que occasionner une répression sanglante. C'est ce qui va se passer le 1er décembre à l'aube. Donc on a toute une série de rapports qui détaillent un petit peu la façon dont l'État puis l'armée exerce un peu cette violence. Donc les gens encerclent le camp, on bloque la route pour ceux qui connaissent entre Dakar et Rufisque. Donc le camp de Tiaroy est à quelques centaines de mètres de cet axe. On bloque cet axe. On s'arrange pour que les villageois qui sont à côté ne soient pas au courant, restent un peu chez eux. Et le 1er décembre, à l'aube, hein, il est 5h30 du matin quand l'intervention commence. Donc c'est vraiment, le camp est un camp assez grand. Il y a des chars, il y a des chevaux. Bon, il y a différentes brigades qui interviennent à différentes positions dans le camp. On réunit ces hommes-là sur une esplanade. Et ce qui apparaît, c'est qu'il y a au moins une rafale de mitrailleuse, au moins une, qui va faucher des hommes qui sont complètement désarmés, qui se réveillent, qui sont au petit matin, et qui va faire plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de morts.
Justement, les chiffres, terminons là-dessus, vous montrez que l'administration donne des chiffres très contradictoires, donc on en est à, vous dites, plusieurs dizaines certainement, peut-être une centaine de morts.
Oui, alors c'est vrai que ça prendrait un peu de temps, mais il y a une espèce d'étonnement en fait quand on lit ces chiffres qui passent de 1200 à 1800 tirailleurs qui seraient présents. Donc les différents rapports sont assez flous. On peut se demander si à un moment ça n'a pas été stabilisé pour avoir un chiffre de 35 morts. Juste un mot pour dire qu'on a le même rapport du même général Dagnan qui passe de 35 à 70 morts, et donc un est envoyé à l'autorité militaire, l'autre est envoyé à l'autorité civile, et on est bien obligé de faire en même temps une histoire de ce massacre, de ce drame, et c'est une histoire finalement du mensonge d'État, de cette violence, et qui va se traduire en fait dans un crime de papier, qui est aussi un élément à prendre en compte. Le nombre de morts reste flou. On a près de 400 tirailleurs qui disparaissent mystérieusement, ça entre dans le voyage en fait entre la Bretagne d'où ils sont partis et Casablanca où ils font une halte avant de rejoindre Dakar, et on n'a aucune explication. De là à dire que on serait plutôt autour de 350-400 morts, ça reste une possibilité. Bon, on continue à chercher de ce côté-là. Moi, j'ai pas pu démontrer ça encore. Mais l'hypothèse reste ouverte.
Merci beaucoup, Martin Moore. Voilà une histoire qui peut révolter à juste titre, hein, de voir que on a visiblement trafiqué les sources, soit par le silence, soit par ces contradictions entre les sources, dont toutes d'ailleurs ne sont pas disponibles pour les historiens. En tout cas, c'est un récit très très clair et qui établit une nouvelle page dans la connaissance des violences coloniales. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.